Ah, des fermes.
Bah, des arbres.
Des fermes.
Et des arbres.
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Et bonjour, et nous sommes bien sur Radio Bartas pour l'émission des fermes et des arbres, pour une nouvelle émission. Bonjour Rachel.
Bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui pour cette émission, nous allons parler des arbres remarquables de Lozère. Mais avant ça, on a un petit sujet agricole et je te laisserai parler Rachel.
Merci Nathalie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Julien. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je suis là.
Voilà. Donc, merci d'intervenir dans notre émission. Vous êtes le président de l'association Renouveau de la Pomme 100% Cévennes.
Absolument.
Mais, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'objet de l'association ?
Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer peut-être par un peu l'origine et la genèse de la démarche.
Très bien.
Donc, c'est un groupe d'agriculteurs qui... de la CUMA du Ventalon. La CUMA, c'est la coopérative d'utilisation du matériel agricole du Ventalon, dont l'atelier est situé à Chenon-Lac, à côté de la SARL Verfeuil. Ce groupe d'agriculteurs réfléchit et dit on pourrait peut-être déposer une marque, parce qu'on est quand même convaincu qu'on produit un jus de pomme, on va dire d'exception, hein, soyons modestes. Et parce que, bon, mais c'est un jus de pomme issu de plusieurs variétés, on reviendra un peu dessus sur le cahier des charges après, issu de plusieurs variétés et surtout de pommes anciennes locales. Et donc, ce jus se vend très bien, il est très prisé par le consommateur, et chacun des producteurs autour de la table n'a aucun problème de vente, c'est plutôt des problèmes de rupture de stock certaines années où il n'y a pas beaucoup de pommes, mais il n'y a aucun problème de vente. Et on se dit, bon, pourquoi pas essayer de marquer le territoire d'une part, et puis de protéger, de faire connaître ce produit, de le promouvoir avec le grand souci de pérenniser ces vieilles variétés et nos vergers qui nous permettent de produire ce jus. Donc, plusieurs réunions du groupe de travail autour de cette idée, quoi. Et, nous sommes 5 ou 6 producteurs à une réunion à peu près par mois, quoi. Et de là vient ça évolue petit à petit. Et en automne 2015, au début, on dit il faut commencer à chercher des partenaires, parler de cette démarche autour de nous et tout ça. Et une réunion en novembre 2015 a lieu à la Chenon-Lac, à la salle polyvalente de Chenon-Lac, avec la participation, bon, parce qu'on avait, je suis élu à la commune de Chenon-Lac et à ce moment-là j'étais élu aussi à la communauté des communes des Hautes-Cévennes, chargé de l'agriculture, puisque je suis quand même un peu dans l'agriculture depuis des années, par la président de ce projet, et il me dit, t'as le feu vert, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord et on parle là-dessus. Donc on organise une réunion avec beaucoup de partenaires, Parc National évidemment, le centre de pomologie d'Alès, les 2 chambres d'agriculture Gare et Lozère, les 6 Vambio, les communautés des communes, enfin bon, j'espère ne pas oublier beaucoup de monde, mais il y avait quand même beaucoup de monde à cette réunion, pour savoir un petit peu ce qu'en pensaient les gens qui nous entouraient, nos partenaires éventuels, quoi. Et tout le monde a été quand même assez séduit de cette démarche.
Donc ça a été le départ. Le retour a été tout de suite positif.
Voilà, tout était positif. Et il nous a fallu par la suite trouver des partenaires un peu plus ciblés pour mener à bien les tâches administratives et aller chercher un petit peu de financement à droite et à gauche. Donc nous avons comme partenaire, tout à l'heure, la communauté des communes, à l'époque la communauté des communes de Hautes-Cévennes, qui aujourd'hui a été remplacée par l'AGLO, puisqu'on a intégré l'AGLO en 2017. On décide de déposer un projet terra rural avec la participation du syndicat mixte d'aménagement du Mont-Lozère, qui accueille cette idée aussi très positivement. Voilà, les premières pierres sont plantées. On a eu une subvention sur un projet de 15 000 euros, on a eu une subvention de 12 000 euros qui nous ont permis d'embaucher, de flécher du temps d'une agente de développement de la communauté des communes sur ce projet-là, et ensuite d'embaucher une stagiaire en fin d'études d'agro qui nous a permis, j'y reviendrai tout à l'heure, d'écrire le cahier des charges avec, à la suite d'un travail de quelques mois et des enquêtes.
D'accord. Voilà. Alors, quels sont les principaux objectifs de votre association ?
Alors, les principaux objectifs, effectivement, c'est mettre en avant un territoire. Ça, je pense que c'est pour le développement, c'est quand même quelque chose de toujours positif. Et surtout, c'est le produit, comme je vous ai dit tout à l'heure, se vend sans problème. Donc, le principal souci, c'est pas un souci de vente ou de promotion du produit lui-même. Notre souci, dans l'urgence, c'est de pérenniser les vergers qui nous permettent de faire ce jus de pomme. Parce que ce sont des vergers de plein vent, c'est-à-dire des vergers plantés dans des prés, à 10 mètres l'un de l'autre, pas plus. On n'est pas du tout dans le cas des vergers piétons, dits piétons, où on a un arbre tous les 3 mètres, qui sont pas très hauts, qui produisent très rapidement. Alors qu'un verger de plein vent produit en général comme il faut à partir de 8-10 ans, quoi, et guère plus tôt. Donc ça, c'est l'objectif, et comme je disais l'autre jour à une réunion, si on était parti sur une filière salade, 3 semaines après ou 6 semaines après, en conventionnel ou en bio, on a des salades. Là, il faut attendre quand même 8 ou 10 ans avant d'avoir des arbres. On en a pour le moment, on considère qu'ils font partie un peu de notre patrimoine local. Il faut les conserver, les entretenir, en faire l'inventaire et surtout pérenniser leur plantation. Et voilà.
Et combien de producteurs font partie de votre association actuellement ?
Alors actuellement, il y a une grande différence. Actuellement, on est l'association est née en début d'année, enfin courant 2018. Donc nous sommes 12 à 15 producteurs. Il y en a 12 réels, il y en a 3 ou 4 qui... Les chèques doivent être en route, bon. les bulletins d'adhésion plutôt. Par contre, dans la démarche qu'on a eue au départ avec la communauté des communes des Hautes-Cévennes et le SMAL, le syndicat du Mont-Lozère, on s'est rendu compte, notamment dans la réunion de novembre 2015, que le territoire était certainement plus grand que ce que était au départ le territoire de la CUMA du Ventalon. Donc on a associé assez rapidement l'atelier d'Altier, l'atelier du Pain des Dix, et par la suite on a su également qu'il y avait un atelier à Sainte-Croix-Française, qu'il y avait effectivement le CFPPA de Florac, qui avait un atelier, Hispaniac également, donc si j'en oublie pas, ça fait 6 ateliers sur le secteur, oui, 6 ateliers sur le secteur. Et si on fait la liste des producteurs de jus dans ces ateliers, on tombe à peu près sur 150 producteurs.
D'accord, donc c'est vraiment quand même une production assez conséquente dans notre territoire.
Ça peut le devenir, oui.
J'imagine que dans votre dynamique associative, il y a aussi la question de revalorisation aussi des milieux cévenols qui quand même tendent à la fermeture.
Tout à fait. Alors, c'est effectivement un des objectifs, on va dire indirects quand même, de l'association. Mais il est évident, nous pensons tous, agriculteurs que nous sommes dans cette climat, ou producteurs, à pérenniser le jus, mais aussi l'agriculture dans les Cévennes. Et le modèle typique de l'agriculture dans les vallées cévenoles, vallées cévenoles et Mont-Lozère, c'est basé sur la polyculture. Donc effectivement, un peu de pommes, un peu de châtaignes, un peu de miel, un peu de quelques chèvres, quelques... Et avec ça, je pense qu'on est en train de... Bon, il y a des filières qui se sont créées, qui se sont structurées déjà depuis quelques années, depuis longtemps. Même, on est en train de... C'est un outil de plus dans la boîte à outils d'un jeune qui veut s'installer, pour lequel on met à disposition une boîte à outils, c'est-à-dire que s'il veut s'installer... un peu avec des châtaignes, un peu avec des pommes, un peu avec... Il ne peut pas être spécialiste en tout, mais si les filières sont déjà bien structurées, il aura plus de facilité à avoir tous les renseignements. On peut facilement dire, si tu as 2 hectares de châtaigniers, ça te rapportera tant. Si tu plantes 1 hectare de pommiers, ça te rapportera tant. Voilà. On peut conseiller des jeunes agriculteurs sur la polyculture, qui a toujours été en Cévennes, qui a eu effectivement une période de déshérence, mais qui aujourd'hui, moi je pense, est en train de redémarrer parce qu'on a une qualité de vie. Et les bons produits, on le vend en poupe, on le sait, les circuits directs, les circuits courts, les produits bio et plus que bio, propres on va dire. Je pense qu'on est dans une mouvance d'avenir quand même un petit peu. Il faut être optimiste de toute façon.
Exactement. Alors là, je rebondis sur la question de l'agriculture biologique. Vous avez développé un cahier des charges pour faire partie de cette marque collective sur le jus de pomme. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire quelques critères du cahier des charges ?
Tout à fait. Alors le cahier des charges, à la limite, il est même plus contraignant que les critères du cahier des charges de l'agriculture bio en France. Je suis moi-même certifié bio, mais le cahier des charges qu'on a écrit est, au niveau des intrants et tout ça, beaucoup plus sévère et beaucoup plus exigeant que celui de l'agriculture bio. En bio, un producteur de pommes peut avoir recours à une douzaine de traitements, en cuivre ou soufre, qui sont autorisés en bio, mais c'est quand même des traitements. Ce sont quand même des traitements. C'est très peu par rapport à la culture de la pomme conventionnelle, qui va jusqu'à 43 traitements, je crois, en moyenne. C'est quand même, l'agriculture biologique, il y a quand même des traitements possibles. Nous, on est sur des variétés qui sont anciennes, qui sont locales, et qui, pour le coup, se sont un petit peu... elles sont devenues naturellement résistantes, et elles sont bien adaptées au terroir, donc beaucoup moins besoin d'intrants. Les besoins en eau, on sait que c'est la problématique du siècle, en tout cas de notre décennie ou de nos décennies. La ressource en eau, un pommier de plein vent va être plus résistant à la sécheresse parce qu'il aura développé une racine en profondeur, beaucoup plus qu'un pommier de piéton. Donc le cahier des charges au niveau des intrants et de tous les produits employés est relativement sévère. Bon, c'est tout bien décrit, on a quasiment aucun recours à aucun traitement. Mais le cahier des charges concerne le jus de pomme, et là, effectivement, on demande dans le cahier des charges à ce que le jus qui soit estampillé, qui portera le label de la marque, 100% Cévennes, provienne, soit constitué avec 5-6 variétés de pommes différentes. Ça, c'est ce qui, a priori, donne un éventail de saveurs à notre jus que l'on ne trouve pas dans des jus du commerce qui sont souvent mono-variétal. Alors qu'on est, nous, sur des jus qui sont confectionnés à partir de 3-4 variétés, 5, des fois 6. Ces vieilles variétés représentent à minima 70% des ingrédients qui rentrent dans le jus. Pourquoi on a pris 70%? On aurait pu être encore là aussi plus sévère, mais ça permet à un agriculteur qui veut faire du jus pomme-poire de pouvoir mélanger avec un autre produit de la poire, à condition qu'elle réponde aux mêmes critères et qu'elle provienne du même territoire. On trouve du pomme-framboise, on va trouver du pomme-cassis, etc. Donc on a décrit tout ça dans un cahier des charges qui n'est pas contraignant pour quelqu'un qui est sur le secteur, qui a des prairies de plein vent sur le secteur depuis longtemps, mais qui pourrait l'être au vu de certains agriculteurs qui s'installent ou qui ont connu l'agriculture, l'arboriculture conventionnelle de ce jour.
D'accord. Merci donc pour toutes ces informations précises. Alors, si quelqu'un souhaite adhérer potentiellement à l'association, est-ce qu'il peut trouver toute cette documentation sur Internet, ou alors c'est mieux de contacter un membre de l'association ?
Alors, la réponse est très rapide. Pour le moment, le site, comme je vous ai dit que l'association était un peu à ses débuts, le site Internet n'est pas encore... on a un site qui s'appelle jusdepommedescévennes.fr ou .com. Mais il y a une page d'accueil, il n'est pas fini, on doit le faire. D'ailleurs, on a le parc des Cévennes nous aidera dans l'établissement de ce site. Nous aurons une subvention du parc pour faire le site. C'est en cours, mais c'est toujours pas finalisé.
D'accord.
Par contre, pour le moment, le mieux, c'est de téléphoner à un des membres du conseil d'administration de l'association. Beaucoup, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas pu mettre, on n'a pas mis beaucoup de numéros de téléphone en face dans nos éléments de communication, plaquettes, flyers et autres. Par contre, il y a un peu partout mon numéro, donc je veux bien, en tant que président, je veux bien renseigner les gens, leur envoyer un mail avec les documents, cahier des charges, statut de l'association, évidemment le bulletin d'adhésion. Si les gens sont intéressés, quelque chose qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 semaines, où nous avons envoyé à tous les producteurs potentiels ce mail, et nous l'avons également envoyé à beaucoup de partenaires, communes, beaucoup d'autres, chambres d'agriculture, tout ça.
Est-ce que voilà, vous pouvez nous donner peut-être ce contact mail ?
Le mail, on pourra répondre par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci.
D'accord, donc alors je vais dire le contact email de l'association, c'est asso@jusdepommedescevennes.fr. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. J'imagine qu'on vous retrouvera ce week-end à Saint-Jean-du-Gard.
Exactement.
Pour la fête.
Exactement.
De l'arbre et du fruit.
Voilà.
Très bien, donc pour tous les auditeurs qui souhaitent avoir plus d'informations. Vous pouvez rencontrer l'association ce week-end. Écoutez, je vous remercie vraiment pour toutes ces informations. Je vous souhaite bonne chance pour la dynamique de cette association et pour tous les nouveaux adhérents Cévenol qui viendront à vos côtés.
Eh bien, merci beaucoup.
Voilà,
c'est moi qui vous remercie.
Je vous souhaite une bonne journée.
Merci de même.
Au revoir.
Au revoir.
C'était donc Jean-François Julien, président de l'association du Renouveau de la Pomme 100% Cévennes, qui nous a expliqué toutes les actions réalisées sur cette thématique. Une petite pause musicale avec Bobby Lapointe avant de retrouver Nathalie pour nous parler d'arbres.
Tout à fait.
Elle a l'œil vive, la fesse fraîche et le sein arrogant, l'obscène, l'autre œil et l'autre fesse, tout également. Mais ça n'est pas mon automne, et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant, tiens voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum, poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi qu'est mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta sœur. Poum poum.
Et donc, et voilà, c'était Bobby Lapointe, Marcel, une petite chanson rigolote pour une fois.
Et oui, on innove.
On innove. Alors, après avoir parlé de pommes, on va parler des arbres remarquables en Lozère. J'ai devant moi un livre de Jean-Pierre Lafont et de Jean-François Salles qui a été fait en 2003 sur les arbres remarquables de Lozère qui recense en fait tous les arbres remarquables. Alors, remarquable, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ?
Rachel, me demande bien.
Tu te demandes bien, qu'est-ce que ça veut dire remarquable ? Remarquable, c'est remarquable par leur caractère, déjà, le caractère biologique des arbres. Par exemple, s'ils ont un âge assez élevé, s'ils ont des hauteurs un peu impressionnantes ou pas du tout impressionnantes, leur diamètre, leur forme un peu bizarre, etc. Ils sont également remarquables par leur caractère sociologique. De par l'histoire, d'abord, par exemple, sais-tu, Rachel, qu'il y avait des pins de boulange, qu'on appelle de boulange, sur lesquels on récupérait les branchages pour le four à pain.
Mais non, mais quel circuit court incroyable.
Mais oui, voilà, nous sommes tout à fait dans le circuit court. Donc ça, c'est des caractères un peu remarquables par l'histoire, par leur beauté, par des arbres qui étaient repères sur les bords de route, etc. Donc ce recensement de ces arbres remarquables a été fait par la coopérative La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise avec le soutien financier du conseil départemental et régional. Et donc moi je voulais vous parler de deux espèces d'arbres. Une espèce qui est introduite dans ce livre qui est un séquoia, les séquoias géants, qui sont des espèces exotiques évidemment. Et je voulais également vous parler du hêtre tortillard qui n'est pas présenté dans ce livre sur les arbres remarquables, mais il y a eu un spécimen qui a été découvert dans le parc national des Cévennes tout juste cette année. Voilà, donc tout d'abord, parlons des séquoias géants. Donc séquoia dindron giganteum. Donc c'est un des trois séquoias qui existe au niveau mondial. Il pousse naturellement sur la côte pacifique des États-Unis, mais il a été introduit en Europe au 19e siècle, où on l'a souvent planté dans les parcs et les jardins. Il a une croissance très très rapide et ils atteignent souvent, comme souvent on le sait, hein, ils atteignent rapidement une trentaine de mètres, tout ça en 100 ans, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Bon, par contre, il n'y a pas trop d'intérêt sylvicole. Son bois, il n'est pas forcément de très bonne qualité, surtout chez les arbres les plus vieux. En fait, ils ont des bois, enfin moi je dirais mous, mais un peu granuleux. Voilà. Pour les arbres plus jeunes, on peut quand même faire un peu du papier, des poteaux, quelques crayons, voilà. Aujourd'hui, c'est un arbre qui est protégé car le séquoia géant ne se reproduit pas de façon naturelle, en dehors de son aire d'origine. Donc, par exemple, chez nous, il a forcément été introduit par semis. Enfin, voilà, il a fallu le planter. Ce n'est pas du tout une espèce envahissante. S'il meurt, il meurt et il n'aura pas de descendance. Voilà, donc il y a des spécimens de séquoia vers chez nous. Donc, dans le livre, on parle d'un spécimen près de Banasac qui s'appelle, c'est le séquoia géant de la Motte. Donc la circonférence du tronc à 1m30, parce que vous savez, si vous avez suivi cette émission, qu'on prend le diamètre d'un arbre à 1m30 hauteur d'orme. Et donc sa circonférence fait 8m22. Sa hauteur fait 36 mètres. Bon, évidemment, aux États-Unis, dans son aire naturelle, on peut atteindre 30 mètres de circonférence. Hein, à la base, hein, pas à 1m30, mais à la base, quand même, 30 mètres de circonférence, c'est quand même énorme. Et dans ce livre, donc, on nous indique que, je cite, « En 1908, trois séquoias commandés par Monsieur de Nogaret pour son château de Saint-Laurent, donc Saint-Laurent dans une commune, avaient été abandonnés sur le quai de la gare à Banasac. Et donc, le chef de gare les a offerts à Madame Gavin, qui les a plantés dans son parc voisin. Et donc, il y a un seul de ces trois séquoias qui a survécu. Et puis, voilà. Et donc, il y a un hôtel qui a été construit aussi à proximité en 1914, qui s'appelle maintenant l'hôtel-restaurant Le Séquoia. Ah. Voilà. Donc, si jamais vous voulez voir, c'est près de Banasac, près d'un hôtel-restaurant. Voilà. Donc, ça, c'était le séquoia géant. Et je voulais également vous parler d'un autre arbre remarquable. C'est le hêtre tortillard, qui s'appelle en latin Fagus sylvatica tortuosa. Alors le hêtre tortillard, c'est un hêtre un peu spécial. Il a des troncs vraiment tortueux, des branches et rameaux qui retombent, etc. Et il dépasse jamais 5 mètres de haut. C'est vraiment un tout petit arbre. Sa croissance est vraiment très 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 lente. Et je vous invite à voir des photos sur Internet parce que c'est vrai qu'à la radio, c'est pas très très facile, mais sur Internet, on le voit bien. Et c'est des hêtres qui sont très rares. Ils n'existent qu'en France, Allemagne, Danemark et Scandinavie. Il n'y en a pas ailleurs. Et donc la forêt la plus célèbre de hêtres tortillards se trouve dans le parc naturel régional de la montagne de Reims. On les appelle d'ailleurs, ça s'appelle les faux de Verzy. Faux, c'est faillard, c'est le hêtre en fait, hein, les faux. Donc les faux de Verzy, c'est le hêtre de Verzy. Et c'est la principale réserve mondiale de hêtres tortillards. Chez nous, donc dans le parc national des Cévennes, il y en a qui sont vers Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Et cette année, donc en 2018, il y a eu une découverte par les techniciens de l'Office national des forêts et du parc national des Cévennes d'une poche de hêtres tortillards sur le Bougès. Donc c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on fait des découvertes, même en 2018, on arrive à faire des découvertes sur notre territoire. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le dire. Bon, on parle beaucoup des hêtres tortillards, mais pourquoi se tortille-t-il ?
Ça, c'est la grande question. Pourquoi s'appelle-t-il le tortillard ?
Voilà, c'est parce qu'il se tortille, mais pourquoi
mais pourquoi se tortille-t-il,
voilà. Pourquoi se tortille-t-il, évidemment, parce que, bon, un être, normalement, ça grandit de façon plus ou moins droite, mais enfin, en tout cas, il y a un tronc qui est assez droit. Et en fait, ce serait dû à une mutation génétique qui se transmettrait de génération en génération, qui fait que l'arbre ne se comporte pas de façon habituelle. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que cette cause génétique n'est pas encore vraiment connue. Donc, tout est ouvert encore sur ce hêtre tortillard.
Merci Nathalie.
Voilà, c'était...
c'était la minute tortillard.
C'est ça. Et voilà, nous en avons fini pour cette émission des fermes et des arbres.
À bientôt.
À bientôt Rachel.
Au revoir.
C'était Des fermes et des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.